Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, il y a un bon débrief de la tech, c'est avec des bons débriefeurs et ils sont là ce soir pour nous. Merci messieurs d'être avec nous. Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos, bonsoir.
Bonsoir Fred.
Damien, merci d'être avec nous. André Lescuc-Pretri, président de JEDI, bonsoir.
Salut Fred.
André JEDI, qui est le Joint European Disruptive Initiative, voilà, une DARPA. J'entends tout le monde me dire il faut des DARPA, il faut des...
Gens qui veulent faire des DARPA mais qui ensuite font rien, se remplissent mon bureau. Nous, on essaye de faire des choses concrètes.
Donc, en plus, plein de sujets pour toi ce soir, avec cette alerte sur le fait de notre retard sur les robotaxis. Et puis avec nous également, Michel Lévy, provençal. Bonsoir Michel.
Bonsoir Frédéric.
Merci d'être avec nous, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Alors messieurs, on va démarrer avec en parlant robotaxis, parce que l'alerte du Haut Commissariat à la stratégie et au plan sur les véhicules autonomes, c'est dans une note qui a été publiée aujourd'hui. Aujourd'hui lundi, l'institution s'inquiète du retard pris par l'Europe dans ce domaine technologique, alors que les États-Unis et la Chine, et on s'en fait l'écho suffisamment souvent ici dans Tech & Co, avancent à pas de géant. Le vieux continent est à la traîne, mais est-ce qu'il est déjà trop tard? On écoute ce que nous dit Justine Vasseuil.
La voiture autonome est une réalité en Chine ou aux États-Unis. Waymo, par exemple, réalise plus de 450 000 courses par semaine à Phoenix, à Los Angeles, à San Francisco. Et pendant ce temps-là, en Europe, le silence sur le sujet est assourdissant, s'inquiète le Haut Commissariat. Et les acteurs chinois et américains arrivent à Londres ou à Munich. L'Europe risque une nouvelle colonisation numérique et industrielle, mais il n'est pas trop tard, indiquent les auteurs du rapport. Le vieux continent peut reprendre la main s'il s'intéresse plus aux usages qu'à la technologie. Il ne faut pas limiter le véhicule autonome au seul robotaxi. Il peut servir pour des transports collectifs, peu importe sa taille. Aller au travail avec sa voiture, puis la laisser repartir pour transporter des patients chez le médecin et la récupérer le soir, propose par exemple le Haut Commissariat. Deuxième piste pour éviter à l'Europe d'être larguée et à l'industrie automobile d'être kodakisée. Investir massivement dans deux ou trois champions européens de plusieurs centaines de millions à quelques milliards d'euros.
Voilà, c'est ce que dit ce rapport hein, du Haut Commissariat à la stratégie au plan. Investir dans deux, trois acteurs en tout cas. Et puis, il préconise d'autres choses. Il dit il faut un monde où plusieurs modèles doivent cohabiter. Donc, il faut peut-être que la puissance publique soit présente pour acheter des flottes et les répartir selon les usages, bâtir des points d'entrée dans le réseau routier. Voilà, on devrait s'habituer à tout ça. Oui. André.
Oui, j'ai envie de le renommer le Haut Commissariat à l'eau chaude, quoi, ou l'eau tiède. Non, mais attendez, là, il faut qu'on... Enfin, il est très fort. Moi, j'adore Clément Beaune parce que c'est un vrai Européen. On peut pas. Il a réussi
en plus,
à mettre.
Il paraît qu'il a pas son permis de conduire.
À un moment, il était potentiel candidat à la mairie de Paris. Donc, c'était un petit peu son terrain de jeu. Mais non, c'est un vrai Européen. On doit lui donner le mérite qu'il a sorti le Haut Commissariat du formol dans lequel l'avait plongé notre ancien Premier ministre, François Bayrou. Mais bon, si c'est pour faire des rapports qui s'accumulent avec la longue liste de rapports, Draghi, l'État, etc., pour ne pas dire les choses juste essentielles, c'était aujourd'hui, l'État n'est pas là pour acheter des voitures, mais ça c'est vraiment encore des âneries des années 60 ou 70, dans lesquelles on va dépenser beaucoup d'argent. Il est là pour faire un cadre. Et qu'est-ce qui se passe en France depuis 10 ans? Quasiment rien. On a peu de routes où on peut tester le véhicule autonome. Et deuxième chose, on ne sait pas voir les choses en transversal. On a un vieillissement de la population. On a de plus en plus des enjeux de mobilité qu'ont fait ce qui avait provoqué
des zones rurales
dans les zones rurales. On va évidemment pas mettre des bus dans toutes les... C'est là qu'il y a un vrai potentiel de changer la donne, de donner de la mobilité à des gens qui ont moins les moyens, rappelez-vous les gilets jaunes. Bon, et à nouveau, faire un rapport pour donner des grands poncifs n'a pas beaucoup d'intérêt. Mmh. Par contre, là où ils ont raison, nous on en parlait il y a un mois dans les mêmes échos, donc c'est que ce sujet de robotique plus général est un tournant immense pour l'Europe, pour la France.
Avec Luca de Meo, hein.
C'était une tribune avec Luca de Meo, avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, et avec Alexandre Sobo, qui est le patron de France Industrie, en disant la robotique, toute l'économie de l'autonomie est un immense potentiel en fait pour driver les composants, la robotique, les nouveaux matériaux, le software. Dans un robotaxi, aujourd'hui, c'est 60 à 70% de la valeur, c'est du software, c'est de l'IA. Le drive, le powertrain, comme on dit, hein, les parties mécaniques aujourd'hui deviennent une commodité. Malheureusement, c'est la seule chose qu'on sait réguler et c'est un peu la seule chose à laquelle on se concentre en Europe. Oui. Donc, opportunité, mais bon, ces rapports, c'est très bien, maintenant il faut passer à l'action. Là. C'est oui. insupportable d'en entendre un de plus.
Et puis peut-être faire attention, comme tu disais, on va tout de suite penser aux grandes villes, il va y avoir les taxis qui vont se manifester, on va arriver, s'il y a des expérimentations, l'année prochaine, je ne fais pas de dessin, c'est la campagne présidentielle, puis les campagnes législatives, donc personne ne va vouloir se lancer avec des grèves des taxis partout, alors que dans les milieux ruraux, ce serait hyper utile. Enfin, on a tous des exemples en tête.
En fait, Michel. Oui, je suis d'accord hein, avec ce que dit André. Il y a plusieurs angles à ce problème. Il y a un angle, évidemment, qui est un angle économique. Pourquoi ? Parce que, qui est lié aux usages. C'est de la productivité, la voiture autonome. La voiture autonome, c'est permettre à des gens qui se déplacent, qui vont être moins fatigués pour travailler, qui vont aussi pouvoir peut-être travailler partiellement pour le moment, mais de manière de plus en plus importante pendant les temps de transport. Ça, c'est un point indéniable. C'est une question, évidemment, de sécurité. On ne le dit pas assez, mais la voiture autonome est plus sécure que la conduite humaine. Et les chiffres sont là. On arrive parfois jusqu'à un facteur 10 en termes de sécurité. Ça a été cité des études alors, qui ont été menées notamment aux États-Unis, qui ont été beaucoup communiquées par, par Waymo en l'occurrence, qui prouvent qu'il y a plus de sécurité avec les voitures.
Oui, et quand il y a un accident, c'est souvent un accident parmi X millions de kilomètres déjà parcourus, mais évidemment on fait un focus.
Alors on fait un focus parce que ce sont des robots et évidemment et puis, on est moins, on accepte moins qu'un robot génère un accident.
Et puis qu'ils sont encore dans un milieu hybride, hein. Il y a encore l'aléa humain.
Enfin, et puis il y a un dernier point qui est fondamental et à mon avis qui bloque. Et il y a un cas, moi je suis ce sujet parce que bon, il s'avère que j'ai une Tesla et j'attends le FSD, le full self-driving, enfin la possibilité de conduire
de lâcher le volant
avec quand même un œil sur la route et un œil sur le volant, et une supervision. Et là, on s'aperçoit que les Pays-Bas ont accepté en fait que sur les routes des voitures autonomes circulent. Les Belges sont en train d'accélérer pour prendre le pas et accepter aussi qu'il y ait des voitures autonomes. Et nous, Français, le CNRV, qui est en charge de la validation, postpone, n'arrête pas de freiner et s'en remet effectivement à l'Europe. Donc, on se demande, mais quelle est l'intention ? Est-ce que l'intention, c'est une question de souveraineté ? Est-ce qu'on attend finalement d'avoir la brique technologique européenne avant d'accepter d'avoir des voitures autonomes sur nos routes ? Ce qui n'arrivera pas, hein. Soyons clairs. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, la puissance de la Chine, et déjà les États-Unis ont beaucoup de mal à suivre face à la puissance de la Chine, est telle que, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir très probablement, si on accepte d'avoir des voitures autonomes sur nos routes, majoritairement des voitures chinoises, oui, aussi des voitures...
Et on en reparlera dans un instant, parce que c'est notre deuxième sujet qu'on parlera de ça. Damien, justement, sur les conclusions de ce rapport...
Les conclusions de ce rapport, je rejoins ce que tu disais, hein, on enfonce des portes ouvertes, parce que proposer s'émouvoir de cela soudainement, c'est un peu une farce, dans le sens où il suffit de regarder ce qu'avait la démonstration de force qu'avait fait l'année dernière ou il y a deux ans Musk avec le robot taxi, en expliquant déjà ce que ça allait être, ce principe de véhicule de personnes dedans, ça marche tout seul, la voiture est fonctionne toute seule, et à côté de ça avait déjà imaginé de faire en sorte que votre Tesla, si vous la garez sur un parking, elle peut servir à quelqu'un d'autre. En attendant, la technologie, on l'a. Ça s'appelait Navi, par exemple, en France.
Navia, oui.
C'était donc une
lyonnaise, oui.
Voilà, qui n'a pas marché, ou au moins qui a fonctionné, mais qui a...
C'était un peu cher, mais...
C'est pas la question. La techno était là, mais pas d'effet d'échelle. Des acteurs qui ont soutenu à bout de bras, puis finalement, derrière, l'alignement des technologies, de l'usage et du marché n'était pas là. Donc, en gros, des technos, on sait faire. Mais dès qu'il faut arriver à les déployer, d'avoir la logique d'effet d'échelle, on sait pas faire. Donc, très... concrètement, c'est quand même dommage de dire ça déjà. Deuxième élément, c'est de se dire aussi qu'on a des acteurs, notamment automobiles. L'Europe est quand même un des creusets en termes d'ingénierie automobile mondiale. Aucun acteur du marché, que ce soit du Renault, du Stellantis ou autre, aujourd'hui ne porte à bout de bras un marché, enfin ne porte des technologies de ce style-là. Stellantis va passer un accord avec certains aux Pays-Bas, si mes souvenirs sont bons, avec l'acteur qui justement Pony AI derrière. Mais globalement, on n'a aucun acteur du marché qui véritablement porte ça. Donc en gros, à nouveau, l'Europe part en ordre de bataille complètement dispersé et avec des réglementations différentes, avec des acteurs qui font chacun leur petit truc dans leur coin, alors que la différence, comme d'habitude, États-Unis comme Chine, il y a un ordre de bataille qui est rangé et on y va, quoi.
Mais moi j'imagine, hein. Moi je pense beaucoup milieu rural et je trouve au milieu rural, plutôt que se lancer dans des achats de bus là sur 20 ans, des grands bus de 60 personnes qui roulent à moitié vide, on met ces navettes là.
Il y a l'aspect rural et il y a l'aspect, on a beaucoup parlé des EHPAD pendant les dernières années, il y a un aspect pour la mobilité des personnes qui justement ne seront plus capables de prendre des voitures. Donc c'est une
c'est un danger pour certains.
C'est-à-dire aujourd'hui, système de prendre soin de nos anciens, de nos seniors, coûte extrêmement cher. Et en plus, c'est un système où, quand vous l'êtes dans des endroits qui sont quand même de bonne qualité, ça coûte plusieurs milliers d'euros par mois d'avoir son senior dans un... Là, on a la possibilité de garder les gens chez eux, ce que la plupart d'entre nous veulent, grâce à ces solutions de mobilité. Mais on ne sait pas juger. C'est pour ça, moi j'ai envie de dire, c'est très bien ces rapports, mais là, sans être un admirateur de Musk, il faut juste un petit peu regarder ce que fait Musk, on remplacerait très bien ce genre de haut commissariat. Deuxième chose, ça montre quand même, et je vais être un peu dur, l'incompétence profonde des gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire, là, on enfonce une porte ouverte 5 ans après. Alors, tu parlais avec gentillesse, Frédéric, on voit toutes ces photos de la Jaguar, donc Waymo. Oui. Il faut rappeler une chose, pour tous ceux-là qui disent qu'ils veulent faire une DARPA, mais qui finalement ne se mettent pas en ordre de bataille de le faire, Waymo, c'est le DARPA Challenge de 2004-2005 qui a abouti à ce qu'une équipe gagne, et c'est cette équipe qu'ensuite a été reprise par Google et qui est devenue Waymo. 20 ans après. Donc il faut aussi que nos États soient capables de réfléchir à se projeter. C'est ça qu'on leur demande. Donner le cadre, comme tu le disais, et se projeter, faire des grands paris.
Moi, je pense toujours, on parlait de Navia, je pense toujours à ça. Je me souviens de, c'était Christophe, son nom m'échappe tout d'un coup, mais qui m'avait dit, en Nouvelle-Zélande, on est sur un projet où on remplace, enfin, on est en concurrence avec le tramway. Je dis, mais oui. Mais c'est génial, tu gardes les voies du tramway qui sont un peu, voilà, parce que tu veux pour l'instant que ce soit plus sécurisé.
Voilà,
le soir, tu mets 5 Navia, dans l'après-midi, t'en mets que 2 parce qu'il y a moins de monde.
Et ce principe de précaution nous tue. Tu disais très justement, aujourd'hui, on estime qu'on passerait entre 400-500 morts versus à peu près 4000 sur les routes si on était avec un système. Le problème, c'est que la responsabilité d'un robot. Mais là où est le courage politique?
Mais tu sais, petite anecdote, je ne citerai pas de nom, mais il y a quelques années, petite dizaine d'années, j'avais eu l'occasion de discuter avec des gens qui établissaient le plan du Grand Paris et qui s'interrogeaient sur les transports en commun sur le Grand Paris. Et je me souviens, je revenais de la Singularity University où on commençait à voir effectivement ces robots taxis.
Christophe Sapé, le patron de Valar.
Et je leur ai dit, mais regardez de près quand même ce que vont permettre de faire les voitures autonomes. Parce que plutôt que de dépenser des milliards à mettre en place des souterrains, des rails, des transports en commun, il est peut-être plus intéressant d'avoir des solutions plus légères en perspective, parce que c'est des temps longs, hein, c'est pas 5 ans, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc en se projetant avec les voitures autonomes, peut-être qu'on aurait pu faire des économies et être plus efficace.
Chaque fois que je passe en dessous, non, pardon.
Eh bien, juste pour finir là-dessus, on m'a rayonné. On m'a rayonné parce qu'une incapacité à voir les tendances émergentes et à se dire que ça va arriver.
Donc ça aurait créé du volume chez nous, ça aurait pu créer une industrie. Et chaque fois que je passe sous les nouveaux, il y a une espèce de monorail à Saclay qui ont dû coûter une œuvre pour ceux qui passent par la N118, une œuvre.
J'y suis passé hier soir encore. Les deux,
qui vont
les
être la plupart du temps, qui sont essentielles pour des enclavés, mais qui vont être la plupart du temps vides. C'est évident.
J'y ai pensé. Non, j'y suis passé hier.
Et ça, c'est des milliards. Ça, c'est de l'argent du contribuable. Donc, c'est pour ça que je suis assez agacé parce que, 70% de la valeur, c'est le stack software, mobilité, etc. Donc, la valeur est en train de nous échapper complètement. Mm-hmm. Si vous rachetez les batteries, il y a plus grand chose qui reste dans l'automobile européenne. On pourrait créer, je pense que c'est pas complètement perdu, une industrie. Et troisième chose, la dette française, elle est aussi passée sur ce genre d'investissement.
Et puis, on parlait d'usage tout à l'heure. Moi, j'en reviens. Alors, vous allez dire, j'insiste sur la ruralité, mais j'ai des exemples en tête très concrets où je me dis, moi, je connais des personnes âgées qui continuent à conduire parce que sinon, une fois qu'elles sont plantées à l'endroit où elles vont, il n'y a plus rien. Il y a un bus qui passe tout. Alors qu'avec des véhicules autonomes, toc, ça viendrait les chercher, ça viendrait les ramener. Je coupe, mais on va rester sur ce sujet-là parce que la Chine et Rimac devancent Tesla et lancent le premier taxi autonome d'Europe au prix imbattable, alors de moins de, c'est 1,99 €. Je sais pas si vous avez vu ça, Damien, je t'ai coupé le sifflet, donc faire le lien peut-être.
Oui, on peut faire le lien, mais oui, c'est intéressant, ça c'est en Croatie, c'est une société qui s'appelle Verne, qui en fait fabrique des voitures, c'est un milliardaire qui a monté cette marque-là et qui a utilisé cette technologie effectivement pour pouvoir lancer son premier système. Mais le lien, il est vite fait, c'est que, en fait, en Europe et en France, on aime bien l'infrastructure. Parce que quand le bâtiment va, tout va. Parce qu'on adore faire des grands projets. Parce que on aime le côté grandiose. Parce qu'on est des bons ingénieurs. On aime faire ça. La différence, elle est que aujourd'hui, ces modèles-là sont des modèles, en fait, finalement, qui sont des modèles modulaires, extrêmement souples, et qui n'ont pas besoin d'infrastructures au sens. Je parle grand pont, etc. Ah, oui. Je parle de qui vont utiliser les infrastructures actuelles. Et même quand on voit la recommandation qui est faite par le rapport en disant, alors ce serait bien qu'on réfléchisse peut-être à adapter nos infrastructures pour ceci, cela. À nouveau, on réfléchit dans une logique qui est très rigide finalement, alors que le principe même de ces systèmes-là, c'est d'avoir une logique qui est extrêmement modulaire. Et tu parlais des campagnes, il n'y a pas d'infra dans les campagnes. C'est quelque chose qui doit être extrêmement léger justement et extrêmement souple. Quand des bus arrivent à la gare, par exemple, moi-même habitant dans ma campagne, avec des systèmes de bus qui font que, si t'es pas à l'heure, c'est raté pour ton train, c'est raté pour ton truc, et ainsi de suite. Donc, on est dans des systèmes qui sont très rigides.
Et il y a trois taxis qui se battent en duel, donc
voilà. Là où t'as besoin d'avoir une certaine souplesse et où ça permettrait effectivement d'innerver des zones qui aujourd'hui sont des zones quasiment blanches. Et donc ça pose vraiment question. Et tu le disais aussi, ça montre aussi que finalement là, on voit la voiture, c'est une voiture chinoise avec une technologie, etc.
Donc c'est Pony AI.
Ça pose des vrais questionnements sur le fait de se dire, on a d'abord une question de vision et une question de se dire, c'est quand même ballot de se dire qu'on a des constructeurs automobiles qui pourraient arriver dans une logique peut-être européenne, se dire, tiens, on va mettre tout le monde un peu autour de la table et on va se mettre d'accord pour réfléchir à une logique de logiciel. Une logique qui viendrait peut-être venir se connecter à des constructeurs européens. Avoir une logique finalement un peu comme on a fait le GSM. En gros, le fait de se dire, on met une norme, on met une technologie, et puis après, chacun va venir s'intégrer là-dedans. Ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui, et c'est vraiment ça qui est vraiment dommage.
En fait, je vais prendre un parallèle avec le monde de la défense. On a changé de monde. Regardez ce qui se passe avec les drones. Aujourd'hui, on ne monte plus de projets d'infrastructures massives, peut-être à l'exception des besoins en termes énergétiques et en termes d'infrastructures IA. Mais sinon, on a plutôt tendance à essayer d'aller chercher des infrastructures décentralisées, légères,
agiles,
hyper agiles, capables d'évoluer très très vite. Or, monter des rails, monter des trains, monter même des autoroutes, c'est pas agile. On en a besoin quand même des autoroutes pour ces voitures-là. En revanche, commencer à travailler sur des dispositifs qui vont nous permettre d'évoluer, et le logiciel étant le cœur du système. Aujourd'hui, un logiciel, ça évolue à la journée.
Et comment tu vois justement que les Chinois là, qui sont en train d'avancer sont les véhicules de BAIC, de la technologie de voiture autonome de Pony AI qui devance Tesla, enfin les Chinois sont en train de prendre le pas. Alors, y compris là-dessus, parce que
clairement,
voiture électrique, voiture autonome maintenant.
Clairement, et la question qui peut se poser d'ailleurs pour l'Europe, c'est de se demander à quel endroit dans la chaîne de valeur les Européens pourraient agir. Ouais,
c'est-à-dire, c'est passer du thermique à l'électrique, nous on en est là.
Alors, il y a plusieurs endroits. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit en mesure de rivaliser sur, je dirais, la fabrication de la machine, c'est-à-dire de l'automobile au même niveau que les Chinois. Ils sont capables, ils ont automatisé, ils ont des dark factories où il n'y a même plus de lumière dans les usines parce qu'ils n'ont plus besoin de lumière puisqu'il n'y a pas d'humains qui travaillent, il n'y a que des robots. Donc, sur ce point-là, on n'est pas vraiment compétitif. Sur la partie logicielle, malheureusement, on ne l'est pas non plus. Soyons clairs, sur l'IA, nous ne le sommes pas non plus. Donc peut-être que nous pourrions avoir, tout en bas de la chaîne, sur la partie énergétique, en l'occurrence en France, peut-être qu'on a quand même quelques forces. Mettre en place des systèmes, grâce notamment au nucléaire, pour pouvoir piloter, améliorer, optimiser les besoins énergétiques. Et puis, tout en haut de la chaîne, sur les services. Comment est-ce qu'on peut piloter ces flottes de robots, de voitures robotisées? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des services qui vont nous permettre d'améliorer le partage, de faire en sorte que l'expérience soit différente de celle qu'on peut avoir, par exemple, à Shenzhen? Moi, j'ai fait l'expérience de voiture autonome à Shenzhen. Je peux vous dire que ce n'est pas génial. On a un savoir-faire en matière d'expérience en France et en Europe. Peut-être qu'on peut mettre en avant aussi ce savoir-faire.
Alors, il y a quand même la plupart des voitures là qu'on voit. D'abord, je peux pas m'empêcher de me dire. Alors, Matteo Max, c'est d'abord un entrepreneur. Hein. Il est devenu, il a réussi à racheter Bugatti. Enfin, ça, il a fait une filiale commune, enfin une entreprise commune avec ça. Il est backé par la famille Porsche. C'est un entrepreneur croate absolument incroyable. Mais là, c'est un peu le cheval de Troie, puisqu'en fait, vous avez du software chinois et une enveloppe, une marque nommée. Et aujourd'hui, malheureusement, Stellantis, pour ne pas les nommer, ont exactement la même stratégie. Ils sont même en train de vendre une usine à Leap Motors, qui était leur partenaire, leur partenaire en Chine. Deuxième chose quand même, la plupart des voitures aujourd'hui, c'est un assembleur, un constructeur automobile. La valeur, elle est quand même essentiellement chez Valeo, chez Faurecia, chez Bosch, chez Schaeffler, enfin chez les équipementiers. Aujourd'hui, la plupart des grands équipementiers européens sont extrêmement bien positionnés chez les constructeurs automobiles encore. Donc là, je crois qu'il y a encore de la valeur. Pour moi, je pense que le combat n'est pas perdu, mais il faut un certain, effectivement, il faut, c'est le GSM qui a été ensuite renommé avec un nom anglais, c'était d'abord le groupe Service Mobile. C'était des ingénieurs français et allemands rejoints par des Italiens qui ont créé une norme intelligente. Je reviens à cette histoire de compétence. Où est-ce qu'elle est la compétence pour définir ça? Il y a les cas d'usage qui sont en fait multiples et ça va être très difficile pour des... Et là, je reviens à ton sujet de service pour des acteurs non européens, voire même non locaux, d'être dans nos campagnes auprès des seniors. Je pense que là, il y a plein de trucs.
Un acteur comme Transdev, il pourrait...
Et c'est une opportunité. Et il y a une chose que tu n'as pas mentionné. Aujourd'hui, on célèbre la fin des voitures électriques traditionnelles de Tesla, qui met fin à ces jours-ci. Donc en fait, il est en train de basculer entièrement en voyant que la concurrence électrique est trop rude, les marges, et donc il est en train de basculer entièrement sur les robotaxis. Pour moi, la course n'est pas du tout perdue, mais ça mérite des grands paris.
Est-ce qu'il faut justement
pas de dirigisme étatique où on va avoir quelqu'un à la direction générale des entreprises qui ne comprend absolument rien.
Il faudra un grand patron qui prenne la décision.
Il faudrait surtout que Monsieur Tabarot, qui est notre ministre des Transports, se dise dans 3 mois, je fais en sorte que une grande partie du territoire français peut être un territoire d'expérimentation. Je donne en priorité l'accès à des gens qui ont du contenu local ou du contenu européen, et ça c'est en coordination avec les règles, et qui se donne 3 mois et qui ose dire oui, le principe de précaution, je m'assois là-dessus. Ce qui est la pire chose qui a pu nous arriver.
Surtout que, moi, d'après ce que j'ai pour en avoir discuté avec des experts, les histoires d'assurance, c'est prêt. Les histoires de techno, on l'a dit, c'est prêt.
C'est un immense marché.
Non, il y a un vrai sujet qui est un sujet social. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est à un an d'une présidentielle et que annoncer l'arrivée de robotaxis qui vont finalement
tu vas
le marché de VTC et de taxi, ça peut déclencher une fronde que le politique ne veut pas aujourd'hui déclencher.
Oui, j'ai certains lobbies.
Parce que tu auras les chauffeurs de bus.
Tous ceux qui aujourd'hui... je pense que vous êtes... Mais la plupart d'entre nous peut-être ne connaissent pas ce qui se passe dès qu'on est loin d'une métropole. Juste impossible de se déplacer. Ça a été la cause des gilets jaunes. Et qu'on pensait tous, là, dans le 7e arrondissement, nos amis là, de Renaissance pensaient qu'on allait tous se passer à l'électrique. D'abord, ça coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est des choses qui vont servir les fameux territoires dont nos politiques se gargarisent. Donc là, il y a un combat, effectivement, qu'il faut défendre. Il va y avoir des gens qui ne seront pas contents. Mais par rapport au lobby, et en plus, on l'a bien vu avec les VTC, les VTC n'ont pas tué la G7, bien au contraire. Ils ont montré que le service...
Tu parlais des seniors,
il faut du courage politique dans ce pays.
Tu parlais des seniors tout à l'heure, mais pourquoi il y a autant de seniors qui continuent, qui continuent à conduire passé 80 ans? Parce qu'ils se retrouvent dans des endroits, s'ils n'ont pas leur voiture, ils ne sortent plus de chez eux. Et s'ils n'ont pas quelqu'un moyens pour les accompagner ou des enfants proches. Et là, tu te dis, mais...
C'est une des premières. Et demander à la Sécu combien coûtent les transports des personnes
qui vont faire une radio, qui reviennent.
Qui vont faire la radio, c'est des milliards d'euros.
T'as un principe, tu as cité la notion de principe de précaution. En Europe, on est très là-dessus. Cette notion de sécurisation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus, qui est cette dimension de est-ce qu'on est prêt à avoir une acceptabilité sociale, pas seulement sur le fait d'être pris, d'avoir des gens qui sont remplacés par, mais la dimension de se dire et s'il y a un accident, et s'il y a celui, et tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai, les statistiques montrent que tu as moins d'accidents avec ce type de voiture, parce qu'elles sont bardées de caméras, elles savent exactement comment ça fonctionne, elles ont un angle mort qui font éviter d'écraser un vélo ou un piéton. Donc il y a un vrai sujet autour de ça, mais je pense qu'il y a la dimension, il y a une dimension effectivement d'acceptation sociale avant tout. Le fait de se dire, si on ouvre la boîte de Pandore et que demain on se dit il y a des robots qui vont faire que des voitures vont rouler toutes seules, alors qu'on va pas se mentir, aujourd'hui déjà un chauffeur de Uber, il suit son Waze et il n'en dérive pas parce qu'il n'a pas le droit de sortir de l'application et du chemin qu'on lui a donné. Donc en fait ce sont des gens qui sont quelque part aujourd'hui robotisés quelque part. Pareil pour les chauffeurs de bus et ainsi
de suite. C'est les nouveaux esclaves. Moi bien je sûr. Crois que je prends un Uber, je lui demande le nombre d'heures qu'il fait.
Bien sûr.
Alors je sais pas où sont nos lois
avec 11, 12, 13, 14 heures par jour. Et avec un acteur qui leur ponctionne entre 20 et 42% de leur revenu. Ouais. Donc c'est quand même hallucinant. Donc il y a cette vraie question-là qui se joue aussi. Moi, la question qui m'interroge, c'est de se dire que finalement, tu le disais tout à l'heure sur le constructeur, on a les constructeurs automobiles, on en a encore. L'Europe est un des rares pays qui a encore des constructeurs automobiles. Les Américains, c'est compliqué. Dans d'autres pays, il n'y en a plus.
On a réussi à exporter vers certains pays.
Et on réussit encore. Tu le disais, on a des acteurs qui sont de la chaîne de, on va dire, de l'électronique, on va dire ça comme ça, qui sont européens. Valeo est européen, Bosch est européen. Il n'y en a plus. On a encore un vrai savoir-faire sur ces sujets-là. Donc, je pense que tout n'est pas perdu. Le truc, c'est d'arriver à organiser un peu tout ça et de faire en sorte que des acteurs aillent dans ce sens-là. Les acteurs, des constructeurs, notamment Renault ou Stellantis, ont arrêté leur projet de voiture autonome parce que finalement, ils se sont dit on n'a pas de retour sur investissement immédiat.
Ils ont arrêté d'investir dans le conduite de niveau 3.
Exactement. Donc, parce qu'ils n'avaient pas de retour sur investissement. Peut-être que s'il y avait eu une volonté de la part européenne de se dire on va aider les constructeurs en s'appuyant sur les constructeurs européens avec une volonté dans 10, 20 ans, de se dire ok, c'est vous qui allez être les porteurs de ça, mais on va organiser ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui se jouerait. Surtout, mais on part en dispersé comme d'habitude.
Et en dispersé, puis surtout on parle sans savoir. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui parlent, qui n'ont jamais testé. Alors, il faut être allé aux États-Unis, c'est vrai, voilà, faut être un peu privilégié pour avoir testé ces véhicules-là, mais c'est vrai qu'une fois qu'on les a testés, on se dit, mais bon sang.
Maintenant, il faut aller à Zagreb.
Maintenant, il faut aller à Zagreb. Messieurs, merci, vous restez bien entendu avec nous. On va poursuivre, tiens, on démarra dans un instant sur la CNIL qui s'inquiète des lunettes connectées. Voilà, là aussi, on s'y prend un petit peu tard, mais ces lunettes connectées aussi, elles arrivent. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après avec Damien Douani, André Lescut-Pétri et Michel Lévy-Provençal. C'est tout de suite sur les
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, on devrait vous enregistrer entre les pauses parce que le débat continue autour de ces véhicules électriques. Alors là, on va continuer avec Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos, André Lescut-Pétri, président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Mais si on a parlé véhicules autonomes, voilà, vous pouvez retrouver ça en replay. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la CNIL, gardien de notre vie privée, qui alerte sur les lunettes connectées. Vous avez vu ça? Vous en pensez quoi, Michel?
C'est un sujet dont on parle depuis pas mal de temps, oui. Ici. Depuis les fameuses Google Glass qui ont été un échec à cause de cette raison-là. C'est-à-dire que tout le monde se sentait filmé. On a un meilleur...
Pas que, c'est vrai que c'était une des raisons.
C'est une des raisons principales.
Après, c'était l'usage.
Ah non, à 2500 euros, quand même, la paire de lunettes, dollars
à l'époque. Non, mais c'était devenu une telle...
Mais c'est vrai qu'il y avait ça.
C'est un point de friction.
C'est-à-dire qu'il y a eu un tel rejet qu'on retrouve d'ailleurs avec d'autres startups. Le petit Friends, qu'on portait autour du cou, qui était à base d'IA, que personne ne voulait parce que ça enregistrait en permanence. Et bon, les méta là, qu'on voit derrière toi, Frédéric, ont eu la particularité d'être un tout petit peu moins intrusif parce qu'on voit quand on est filmé. Oui. Ça, c'est un premier point. Et puis, ça va devenir une généralité. Je ne sais pas si vous avez vu cette rumeur. Apple qui préparait une paire d'écouteurs qui contiendrait des caméras. des deux côtés pour pouvoir voir l'environnement enregistré. Donc on rentre dans cette ère où effectivement les lunettes vont être un outil comme les autres. On parle aussi peut-être du remplacement du smartphone avec ces lunettes. Donc la CNIL est bien sympathique comme toujours avec ses sorties, mais je suis pas certain que ça ait une grande incidence sur ces géants et sur les usages. Et si ça en a, malheureusement, sur notre territoire, on va retomber sur le même débat que tout à l'heure avec les voitures autonomes et les taxis.
Ils peuvent peut-être amener un certain garde-fou en disant attention, il faut que la lumière continue à s'allumer, il faut que différentes choses. Mais André.
Alors moi je les ai testés. Je reviens des États-Unis. J'y étais jeudi, vendredi dernier. Donc j'ai testé ces nouvelles Metaglass qui ont en plus
avec l'écran.
Qui ont en plus une fonction maintenant de traduction automatique qui est juste impressionnante. Oui. Quand vous parlez. Vous savez, les fameux prompteurs qu'ont le président américain, là où il lit ses discours, ou bien, j'imagine, des présentateurs télé. En fait, vous les avez là, donc vous pouvez raconter un discours qu'en fait vous avez préenregistré. Vous avez de la traduction automatique sans latence. Ce qu'a réussi quand même Meta et Luxottica, qui est quand même une société Ray-Ban, donc une société européenne, c'est qu'ils ont réussi ce truc assez génial de distribuer de manière extrêmement élégante en termes de poids et en termes d'électronique à travers les branches. Oui. Donc il n'y a pas ce côté où elles sont lourdes, où elles sont. C'est ça qui a été le form factor. Ensuite, l'autre chose auquel on pense pas pour ajouter à ce qui a été dit, vous rappelez l'histoire de Nintendo Go où en fait on s'est rendu compte que en fait c'était une immense opération de surveillance. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'IA en ce moment? On ne fait que parler des world models.
C'était les Pokémon Go.
Pokémon Go. C'est que donc qui était une immense opération en fait de mapping du monde entier de manière complètement involontaire. En fait là, c'est effectivement un super cas d'usage pour les utilisateurs. Il y a cet immense risque d'intrusion dans la vie privée. Donc là, je pense qu'ils ont raison d'alerter. La question, c'est est-ce qu'on va à nouveau réguler ce que nous, on ne sait pas faire? C'est-à-dire comment une régulation intelligente en Europe, avec nos propres valeurs sur la vie privée, etc., peut conduire à l'émergence d'une industrie, d'une filière qui, elle, la respectera? Parce que si on n'a pas d'industrie qui le respecte, et peut-être dernier point, en ce moment, la capacité de ces capteurs à en fait enregistrer le monde entier autour d'eux et à donner à Meta, à Google, enfin à tous ceux qui vont proposer ces outils, en fait, un mapping général du monde, c'est une valeur immense. Donc en fait, on leur est en train de leur fournir gratuitement en portant ces lunettes, comme avec des réseaux sociaux, comme avec Facebook.
Comme avec Internet, on leur a laissé la vidéo, etc.
Comme d'habitude. La CNIL est dans son rôle. Elle fait son taf, elle fait son travail, elle alerte et elle dit il faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas s'en rendre compte. Le sujet de fond, je pense, derrière tout ça, à l'époque des Google Glass, à San Francisco par exemple, tu avais des jolis petits panneaux avec marqué interdit, Google Glass, etc. Tu as des gens déjà qui commencent à nouveau se mettre sur la figure, genre t'enlèves tes lunettes, etc. Mais il y a beaucoup moins de rejet aujourd'hui. L'autre soir, j'étais en soirée.
Déjà, parce que le smartphone, c'est beaucoup plus répandu.
Justement, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il y a le smartphone qui est arrivé et l'intrusion de l'image dans notre vie et le fait de se raconter par l'image est devenu une banalité. Le fait de voir les gens au travers du fait de se prendre en photo, de se mettre sur les réseaux sociaux, etc., c'est devenu une banalité. Donc finalement, ça, c'est de l'extension de ça. En fait, si je fais ça, tu me vois, je prends les lunettes, ok, il y a une lumière, pas une lumière, mais tu ne me vois pas. Mais globalement, il y a une sorte d'appréhension du rapport à l'image et le fait d'être capté, en bien ou en mal, qui s'est banalisé dans les usages. Donc logiquement, Meta se dit, c'est le moment ou jamais, effectivement, il y a un alignement qui fait que ça fonctionne. La question de fond, c'est... elle est compliquée, dans le fond. La CNIL est dans son rôle. Moi, ça peut me gêner de me dire est-ce qu'on me filme, est-ce qu'on me filme pas. Un exemple très simple aujourd'hui, ne serait-ce que le fait que quand je fais une visio, des gens déclenchent un appareil que je n'ai pas demandé pour enregistrer ce que je vais raconter, pour faire un compte-rendu derrière, j'aurais juste voulu qu'ils aient la bienséance de me demander si je voulais. Oui. C'est juste une question comme celle-là.
En général, on le demande, mais c'est
non, de moins en moins.
En plus, les minutes, ça doit exister.
Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne me dérange pas. Je trouve ça génial, ça m'arrange qu'il y ait un résumé derrière et tout. Mais je pense qu'il y a cette question-là de qu'est-ce qu'on va faire de nos leviers sociaux, de notre rapport social aux gens, vis-à-vis de ce fait de se dire, du doute, de se dire est-ce que je suis filmé? Qu'est-ce qui peut voir les images derrière? Je rappelle que derrière, bien entendu, les caméras renvoient ces images à des gens qui sont très peu payés, qui sont sous-payés, envoyés très souvent au Kenya. Donc c'était le cas d'ailleurs pour les caméras, pour les lunettes de Ray-Ban. Des images.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire,
quelles qu'elles soient, partent là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est justement, c'est compliqué. C'est compliqué comme réponse. C'est le même principe que les smart speakers chez toi, qui captent tout et qui font que quelque part peut-être ce qui était raconté est traité quelque part ailleurs. Ça rend beaucoup de services, mais à la fois la question de fond, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir une intrusion comme ça? Est-ce que j'accepte ça? C'est extrêmement compliqué. J'ai pas la réponse. Et tu parlais d'Apple tout à l'heure. Là où Apple aurait un coup à jouer, c'est justement leur capacité à dire on va vous apporter quelque chose qui va vous apporter un élément qui va respecter un semblant.
Ils l'ont fait, ils le font parce que, enfin, ils le font. Les écouteurs s'allument au moment où tu enregistres. Encore une fois, ce sont des rumeurs, hein. On n'est pas certain encore du form factor, mais ils devraient s'allumer. Là où je suis un peu plus libéral que toi, Damien, mais je pense que en réalité, le monde dans lequel on est entré va considérer que à partir du moment où tu es dans un espace avec du monde autour de toi, tu es dans un espace public. Et dans un espace public, potentiellement, tu es filmé. Potentiellement, tu es enregistré. Donc la vie privée est en train de s'éroder. Mais oui, la vie privée s'érode.
T'imagines où ça nous amène ? Oui. Et ça, moi, ça me pose question. J'ai pas la réponse, mais ça me pose une vraie question de où est-ce qu'on est prêt à accepter, si tu veux. Et aussi la reconfiguration de nos relations. Je veux dire, quand je reprends l'exemple peut-être banal demander juste à être enregistré ou pas par un petit appareil d'IA pour un peu lors d'une visio, on reconsidère, tu vois, l'autre. Ça me dérange pas dans l'absolu de me dire que l'autre a des Ray-Ban Meta et peut m'enregistrer ou pas, mais il y a cette dimension là de comment je vais reconsidérer le rapport à l'autre, et puis tu peux avoir aussi des dérapages et ainsi de suite. Donc je sais pas, j'ai pas la réponse à ça, mais ça pose des vraies questions.
Une partie éducation, on va dire, mais bon, respect éducation, mais là voilà, la société,
et le fait que ça vienne de la CNIL
dans ce domaine,
le fait que la vienne de la CNIL, c'est intéressant parce que je pense que ça repose la question de c'est quoi le régulateur au 21e siècle. Je pense effectivement qu'aujourd'hui il y a un coût énorme à jouer pour ceux qui arriveraient à développer des outils qui semblent assez inévitables, je suis d'accord avec toi Michel, qui en fait jouerait sur, et c'est ce qu'avait réussi Apple à faire sur les données, hein. Rappelez-vous l'histoire du FBI, etc., où ils s'étaient opposés à l'ouverture d'un smartphone. Aujourd'hui, sur tout ce qui est enregistrement, moi je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, depuis maintenant 3-4 mois, dans les avions, vous avez une annonce sur n'enregistrer personne
les hôtesses,
sans demander leur consentement. Ça a 2-3 mois à peine.
Sur
donc
les
c'est en train de venir, ça semble inévitable. Il y a probablement toute une filière à créer qui va être respectueuse de ça. Et je peut-être qu'on va me traiter de naïf, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui les Européens ont un coup à jouer parce qu'ils ne vont pas appliquer ces valeurs morales juste parce que c'est bien de le faire. Mais parce qu'ils y croient intimement.
Surtout que les Américains.
Il faut que ces régulateurs deviennent des outils de politique industrielle, mais plus intelligentes que juste punitifs.
C'est vrai que surtout les Américains, ils laissent faire au début, puis tout d'un coup, ils ramènent.
Ce qui est en train de se faire sur l'IA.
Sur le RGPD, enfin, tu vois.
Je suis contre le fait de se dire on va amputer ces outils-là, que j'adore. Mon cœur de geek adore ces appareils-là. Et je veux dire, par là, c'est dommage de se dire.
Dans la santé, les handicapés visuels, tu vois, il y a plein de choses.
Mais c'est des pharmacones. C'est en fait, autrement dit, c'est à la fois le poison et la solution. Donc la question de fond, elle va être quelle ligne de crête on met en place. Je ne pense pas que la ligne de crête et la réponse soit à cette ligne de crête, soit on empêche, on interdit, on castre certaines fonctionnalités de ces produits. Là-dessus, je te rejoins entièrement, Michel. Il y a la question de l'éducation au sens large, bien sûr. Mais derrière ça, il y a quand même le fait de se dire quelle confiance on porte aux acteurs, aux opérateurs qui utilisent ces outils-là. J'ai aujourd'hui plus confiance en un Apple ou peut-être même un Google qu'un Meta. Et donc, la question de fond, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on veut de notre vie privée? Quelle est la limite que l'on veut se donner à ça?
Donc,
c'est des vraies questions. Il
n'y
a pas la réponse. Il faut se les poser parce qu'elles sont sociétales.
Il y a un rôle à jouer auprès des acteurs. Alors, l'IA, on en parlait il y a un instant. On va justement en parler, puisque Donald Trump sera en Chine jeudi prochain pour sa première visite officielle depuis l'épisode des surtaxes douanières. Selon le Wall Street Journal, il pourrait se mettre d'accord avec le président chinois sur un pacte de non-agression concernant quel sujet ? Concernant l'intelligence artificielle. On écoute ce que nous en dit Simon Tenenbaum.
Sans pour autant les nier, Pékin et Washington vont devoir mettre un instant de côté les fortes rivalités technologiques qui les opposent. Donald Trump devrait, selon la presse américaine, positionner avec son homologue chinois des garde-fous sur l'IA, l'objectif étant d'éviter une crise qui pourrait dégénérer. Les deux puissances réfléchiraient à installer un canal de discussion dédié au traitement des risques. Il y a 2 ans, sous l'ère Biden, déjà consciente des risques, les deux puissances s'étaient engagées à ce que l'IA ne puisse pas décider de lancement nucléaire. Et alors que l'administration Trump était jusqu'ici partisane d'un certain laisser-faire. Le temps de l'intelligence artificielle en roue libre semble révolu. Washington est décidé à contrôler les nouveaux modèles. Le ministère du Commerce a passé des accords avec Google DeepMind, Microsoft et xAI afin d'examiner leur dernier programme avant qu'il ne soit proposé au grand public. Mythos, l'IA d'Anthropique capable d'effectuer des cyberattaques d'envergure, a fini de convaincre l'administration Trump qu'il était temps d'agir pour garantir la sécurité nationale.
C'est quand même incroyable. Voilà, les États-Unis et la Chine, maintenant, alors à une époque, il y a eu le bras de fer, bon, sur taxe bien entendu, mais le bras de fer autour de TikTok. Et là, on voit. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut montrer? Moi, je trouve que ça a montré que implicitement, les États-Unis sont en train de reconnaître que la Chine a fait un bon géant. Mais ça, évidemment, ici, on le sait. Mais parfois, on a toujours l'impression que c'est eux qui dominent, que les Chinois continuent à copier. Il y a encore ça dans la culture générale. Mais non, les Chinois ont vraiment rattrapé leur retard. Je pense que ça nous dit que l'IA devient un enjeu économique, de puissance économique, un enjeu militaire. Enfin, c'est tout ça que ça nous dit un peu, cette discussion. Michel.
Tout ce qui peut faire dialoguer deux grandes puissances qui sont rivales est une bonne chose.
Oui.
Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est facile de comparer avec un décret de non-prolifération nucléaire, cette affaire du dialogue sur l'IA pour essayer peut-être de coordonner les évolutions et de pas tomber dans la course, la fuite en avant dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'IA sont dans une fuite en avant. Les Américains dépensent des milliards. Les Chinois s'amusent à distiller les modèles américains, c'est-à-dire en gros voler les données issues générées par les modèles américains pour les rattraper. Et ils y arrivent en faisant du dumping avec des IA open source qu'ils ont quasiment au niveau, voire parfois qui frôlent, et peut-être même dépassent à certains moments. Les Américains arrivent à les rattraper.
Ils sont mieux aussi sur les composants.
Ils sont absolument sur les composants. Donc, tout ce qui peut les faire dialoguer est une bonne chose. Je pense qu'il y a un autre problème, c'est que ça n'est pas un décret de non-prolifération nucléaire parce que la technologie est radicalement différente de la technologie nucléaire, dans le sens où, bon, en réalité, elle est largement disséminée. Hein. L'IA est très largement disséminée, donc ça va être très difficile de contrôler l'évolution de l'IA et sa dissémination. Elle n'est pas rare, hein, comme le nucléaire, et c'est beaucoup moins facile de la maîtriser. C'est beaucoup moins facile d'interdire certains usages dans certains cas. À mon avis, le parallèle s'arrête au moment où on pourrait dire que c'est un terrain de dialogue géopolitique. Mais au-delà de ça, mon avis, ça va être différent du nucléaire.
Mais est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance aussi? Parce que je conçois les composants, mais on les fabrique plutôt dans ta région. J'utilise cette IA, je développe des téléphones, mais j'ai envie de les vendre dans ton pays. Enfin, il y a tout ça. On va discuter business, en fait.
Oui, alors c'est pas en fait complètement nouveau, parce que je rappelle quand il y avait eu la dernière réunion, je pense même sous l'administration Biden à San Francisco, hein, Xi Jinping était venu à San Francisco, sauf erreur, il y avait deux sujets, il y a le sujet des relations commerciales et il y avait le sujet de l'IA. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est maintenant déjà érigé au niveau du dialogue stratégique et voilà, il y a une comparaison avec tout ce qui est c'est un nouvel arsenal. La deuxième chose quand même, les Américains, je pense, partent quand même avec deux choses radicalement nouvelles de ces dernières semaines. Un, l'utilisation de l'IA qu'ils ont fait dans l'opération iranienne, hein, le fameux projet Maven qui a radicalement changé la manière dont ils planifient leurs opérations. Du targeting, de la fusion des données et ensuite l'assignement des missions. Alors on peut parler de la manière dont ça se déroule pas fabuleusement bien, mais au début ça a été quand même une démonstration de force. Et la deuxième chose, c'est l'irruption de ces tout derniers modèles type Mythos d'Anthropique, qui montrent quand même que les Américains les entreprises américaines sont quand même très très bien placées. De l'autre côté, je crois que les Américains, comme il y a eu quand même cette coupure accélérée par le Covid, qu'en fait aujourd'hui on ne sait plus vraiment trop ce qui se passe à la frontière, notamment en Chine, je crois que les Américains ont besoin de savoir un peu plus, d'ouvrir un peu plus la boîte, parce que le pire dans ces équilibres de grande puissance, c'est qu'on ne sait pas exactement
où en est l'autre,
parce que là la surprise stratégique est possible.
Damien,
je pense qu'il y a une en creux, il y a un certain pragmatisme américain. C'est toujours alors pour exister sur le c'est pour exister des fois il faut toujours
non, moi je pense qu'il y a un mécanisme très commercial hein. les Chinois avant tout ils veulent pas la guerre, ils veulent faire du commerce et les Américains et Donald Trump en plus
c'est pour ça que je te parle de pragmatisme c'est pour ça que je te parle de pragmatisme et je te dis aussi que pour arriver à faire, on va dire, qu'il y ait de l'ébullition sur un sujet, il faut toujours qu'il y ait un méchant quelque part. Hein. Les Américains ont adoré toujours ça. Il y a eu la guerre froide, etc. Bon, là, il y a les Chinois, mais finalement, au final, la Chine s'est ouverte. On se rend compte que c'est une dictature communiste, mais qui a très bien compris les rouages du capitalisme et qui marche très bien. En face, effectivement, ils se rendent compte que, bah, finalement, ils sont peut-être pas les meilleurs parce que comme ils ont délocalisé plein de choses là-bas et que c'est pas facile de faire revenir hein, des chaînes de production aux États-Unis quand tu vois les Apple qui veut réinstaller et qui le fait quand même. Et c'est pas facile de trouver les savoir-faire, les personnes.
Autour, hein,
donc ce grand cheval de bataille qu'a eu Trump, bah, il se rend compte que pragmatiquement parlant, c'est compliqué de le faire. Donc il y a un moment où il faut discuter. Et autant les Américains, tu parlais de mythos, sont peut-être très bons sur de la recherche fondamentale, sur des modèles, etc. Les Chinois ont montré qu'ils avaient aussi le savoir-faire sur les modèles. Ils ont aussi surtout montré qu'ils ont un savoir-faire sur de l'industrialisation à grande échelle. Je parle même pas de la robotique, avec la démonstration de force au dernier nouvel an chinois avec de l'unitri. Donc très clairement, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Donc voilà, je pense que de ce point de vue-là, les Américains et particulièrement quelqu'un comme Trump qui est avant tout un deal maker, va se dire on va discuter.
Non, qui respecte le rapport de force.
Ouais. Je trouve que alors c'était un article qui date d'il y a 12 ou 18 mois, qui disait un petit peu ces deux points de vue entre l'IA américaine et l'IA chinoise. L'IA américaine où on veut à tout prix aller vers l'IA générale, qui va penser comme l'humain. Et les Chinois, beaucoup plus pragmatiques, c'est l'IA au service des robots, c'est l'IA au service des voitures, c'est l'IA au service de la chimie, c'est beaucoup plus l'IA au service de l'industrie.
On l'a vu dans l'adoption phénoménale de quelque chose comme OpenClaw, qui est devenu un phénomène de société en Chine.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Absolument. Je pense qu'au-delà même de l'IA spécialisée, depuis maintenant 3-4 mois, le leitmotiv des Chinois, ce sont les agents. Et ce sont en réalité des modèles. C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai monté moi-même une start-up sur le sujet qui s'appelle Captain Assistant. Désolé pour la petite page de pub, mais ça prouve qu'aujourd'hui, les modèles chinois, et nous utilisons des modèles chinois massivement, parce qu'ils sont 20 fois moins chers que les modèles américains, ils sont designés pour faire tourner ces agents intelligents. Et en l'occurrence, OpenClaw et depuis peu Hermès aussi.
Microsoft propose du DeepSeek, qui propose.
Alors, ça n'est pas du tout Non, tu veux dire que sur les infrastructures Azure, on peut faire tourner ces modèles. Oui, absolument. Mais en revanche, les agents qui sont proposés aujourd'hui
ne sont pas du tout
ce type d'agent, parce qu'il y a beaucoup plus d'autonomie sur un OpenClaw ou sur un Hermès, qui est le petit qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez des PME, même des entrepreneurs solos en Chine qui installent leur OpenClaw pour pouvoir faire à ces agents autonomes et qui utilisent des modèles chinois qui sont, je vous dis, quasiment aussi performants qu'un Anthropic Sonnet de la dernière version. Pas tout à fait Opus, mais Sonnet quasiment pour 20 fois moins cher.
Oui. Non, mais cette agentification, elle est absolument exceptionnelle et c'est quelque chose qu'il faut que nous aussi, on se saisisse. Alors, les Chinois s'en saisissent parce qu'ils voient ça comme à nouveau un relais de productivité. Mmh. N'oublions pas aussi qu'en 2100, si les prédictions démographiques sont ce qu'elles sont, mais c'est plutôt une science, la démographie relativement précise, les Chinois ne seront plus que 650 millions. Donc, ils ont en plus un vrai enjeu aujourd'hui
de développer du robot, de développer des gens.
Mais ce qui est un sujet pour nous en Europe aussi. Mmh. Étonnant à quel point tout ce sujet est totalement absent des débats politiques. Pardon.
Ça pourrait être un sujet du rapport du Haut Commissariat.
Je suis sûr, mais lui aussi, il dira à quel point OpenClaw est important. Mais à nouveau, c'est le plan d'action qui compte. Et surtout, c'est une capacité. Je suis intimement convaincu que c'est pas un sujet élitiste qui se traite dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'est un vrai sujet de société et où on peut prendre nos concitoyens au sérieux comme des adultes. Alors, tout le monde ne comprendra pas complètement comment ça fonctionne, mais qui sait comment fonctionne une voiture. Mais tout le monde comprend les sujets de mobilité, d'avoir des assistants qui vous permettent d'aller
faire mieux. Je crois qu'en termes d'usage des assistants conversationnels, je crois que la France, on est hyper bien placé.
Parmi
les pays les plus avancés.
Donc il y a le potentiel.
Il y a un potentiel d'adoption. Mais bon, quand on prend ce schéma-là, l'Europe, je ne sais pas où elle est, et je ne sais même pas quelle place elle pourrait avoir. Mais le fait est que oui, il y a de l'adoption, mais il y a aussi de cette peur, toujours latente, tu vois, de se dire, est-ce que est-ce que je pourrais me faire remplacer, etc., etc. Mais quand tu prends l'exemple des Chinois, effectivement, dans les rues, parce qu'on a vu les photos, j'ai demandé à des amis qui sont sur place, ils font quoi? Je dis concrètement, ils disent, bah, ils sont en train d'installer OpenClaw. Parce qu'ils se disent, ils peuvent faire
un
truc.
Il y a des petits stands comme ça, comme
un peu. C'est vrai, voilà, j'ai demandé à quelqu'un qui était sur place.
Pour la restauration
à Thierry Demar sur
l'épaule. Et la question, elle est, ils me disent, ils testent des trucs. Ce sont des commerçants, ce sont des gens qui ont des business divers.
Comme ils ont fait avec la voiture électrique, comme ils ont fait avec les batteries, ils ont testé.
Et ça, il faut reconnaître.
Oui, mais ça, on l'a fait dans nos pays, dans les décennies qui sont passées, donc on sait le faire. Mais il faut réenchanter. C'est pour ça que les hommes politiques qui parlent de il faut protéger les Français, c'est la pire des choses qu'on ait pu faire.
Mais en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'on a quand même une sorte. Mais ça, c'est notre naturel, ce côté un peu dirigiste, si tu veux. On pourrait revenir. On va pas refaire l'histoire de.
Oui, mais qui est récent, en fait.
Tous les sujets-là. Bah, non, il n'est pas récent, je veux dire. L'Europe aurait pu être le creuset de l'Internet et des technologies de l'Internet comme le TCP/IP. Non, on a préféré faire autre chose.
On avait l'ATM, nous, monsieur.
Tout à fait. ce que je veux dire par là, mais c'est que...
Tu as cité le GSM tout à l'heure, c'est un très bon exemple.
Oui, mais
J'aimerais qu'on fasse un sujet. Vas-y.
Juste pour finir, voilà. Donc, concrètement, moi, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Il y a du pragmatisme autour de ça. La seule question que je me pose, c'est est-ce que, quelque part, de manière unilatérale, on n'est pas en train de retrouver, ou l'Europe n'est pas en train de se mettre, malgré elle, sur le banc de touche? Je ne souhaite pas.
Voilà, en tout cas, voilà, on suivra cette rencontre jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine, hein, c'est bien ça. Dernier sujet, alors on va faire un gros raccourci parce que je voulais qu'on parle de Nintendo qui plonge en bourse après l'annonce des prix de la Switch 2, la hausse des prix, et bien justement le raccourci on va le faire parce que la hausse des prix, plein de raisons, mais il y a une des raisons, c'est les composants coûtent cher et notamment la RAM, et du coup on en vient à notre dernier sujet, c'est le tsunami à venir, la pénurie de mémoire, hausse des prix, pénurie, disponibilité réduite, l'IA qui absorbe une grande partie de la production, les fabricants qui privilégient les clients pro, ça a un impact sur tous les produits tech. Aujourd'hui, on parle de la Nintendo là, mais tous les produits, on va tous être concernés. Comment il faut voir? Tiens, je démarre avec toi, André.
C'est un tsunami qui est en train de venir et on n'est qu'au début. C'est-à-dire que on parlait il y a quelques jours du fait que Samsung avait dépassé les 1000 milliards de capitalisation boursière, donc plus que les 5 principales capitalisations françaises. Pour une raison simple, c'est que tous les producteurs de mémoire, et ils en font partie, sont en train, c'est devenu des presses, comme on appelle ça, du printing machine. C'est-à-dire, ils ont aujourd'hui des marges sur les mémoires qui sont de l'ordre de 70-80%. Et la pénurie est telle, pour une raison essentielle, c'est la construction de data centers, qui fait qu'en plus, aujourd'hui, vous n'êtes pas un de ces grands clients pour qui les mémoires sont une fraction du prix, mais qui est essentielle. Et donc, tous les autres, l'automobile, la défense. Donc aujourd'hui, évidemment, tout le monde est en train de se précipiter pour acheter des stocks, mais on n'arrive plus à les trouver. Et c'est quelque chose... Aujourd'hui, on regarde les choses structurelles. 2025 a été une mauvaise année. 2026 a été une... Mais probablement le pic, c'est 2027. Donc des pénuries comme ça, où on sait que dans 15-18 mois... C'est peut-être là où on aura une certaine alchimie, mais c'est terrible parce que ça crée une véritable panique sur les marchés.
Michel ?
En fait, on se rend compte que l'IA n'est pas simplement dans le cloud, elle est dans la vie réelle, elle est dans le monde physique. Ce qu'on est en train de vivre avec la mémoire, la RAM, ce n'est que le début. Parce que ce qu'on va vivre dans les vagues d'après, c'est que l'IA va ponctionner massivement l'électricité, c'est déjà le cas. Et probablement, il y a certains endroits aux États-Unis où il y a des arbitrages qui sont faits entre alimenter des data centers ou alimenter des maisons. Donc ça, c'est un sujet auquel on va être confronté dans les mois et les années à venir. Et après l'électricité, probablement l'eau également. Donc l'IA, ça n'est pas que du digital, c'est aussi du brick and mortar, c'est aussi du monde réel.
Damien ?
Oui, il y a
le fait... 1:30 pour conclure.
Très bien. Voilà. Le fait est que aujourd'hui, les fameuses mémoires HBM, donc qui sont spécifiques pour l'IA, sont en train de complètement tout phagocyter. J'ai même vu récemment qu'il y avait des constructeurs de grand public qui arrêtent carrément de produire certaines RAM. Donc c'est assez hallucinant. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va ouvrir comme nouveau champ technologique derrière ? On le voit, Google qui a lancé une techno qui permet de faire plus avec moins de RAM. Certaines machines.
Oui, c'est il y a quelques mois.
Je prédis aussi certainement les beaux jours du recyclage des machines, puisque il y a des gens qui commencent à se dire, et si on pouvait mettre des systèmes plus légers? Alors ça peut être du Linux, ça peut être des anciennes versions de Windows, parce qu'on va se retrouver avec moins de RAM dans les téléphones. Donc la question de fond, c'est quel est le downgrade et comment on va avoir des machines qui peuvent être, qui peuvent fonctionner.
Ah, c'est intéressant. Voilà. Ça.
Donc il va y avoir une meilleure adaptation, et donc je pense qu'on va aller vers quelque chose qui va peut-être obliger à mieux adapter
ça va le hardware pousser une certaine au software, frugalité, c'est sûr.
Et typiquement tous les acteurs, tu parlais de Samsung, on pourrait parler Apple ou autre, qui ont eux cette on va dire cette intégration verticale du soft et du hard, vont certainement mieux gérer les choses parce qu'ils savent justement bien.
Et nous, la frugalité, doser. On est plutôt bon.
On est plutôt.
Et notamment dans l'embarqué.
Et donc je pense qu'il y a un vrai truc qui va se passer. Donc c'est intéressant à voir ce qui va se passer dans les mois à venir.
Il se passe en ce moment le Chips Act 2 en Europe. On a tout misé sur la logique, c'est-à-dire les fabs, le design, l'architecture des semi-conducteurs. On n'a rien mis dans les mémoires. Donc là aussi, ça se pose la question de quelle est notre capacité très vite d'être agile et de se dire ce sujet des mémoires est absolument fondamental pour ne pas être dépendant.
Eh bien, ça nous donne plein d'autres sujets pour nos prochains débats. Merci à tous les trois. André Loscu-Pretri, président du JEDI, Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école Narrative, fondateur de Topos, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness. Merci infiniment, c'était passionnant.